Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de BuyZK, Nelson Han, Vincent LCVZ, Lara, Too Cool for School, Richie, Guillaume Malherbe, Who is David, Daniel Streng, Michael Bruyère, Franck Granger, Thierry Tropé, JB Verneige et Blackmail 44.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple et compréhensible et surtout agréable l'actualité tech, internet et gadgets. Et pour attirer le chaland et lui proposer un produit de qualité comme on essaye de le faire, j'ai aujourd'hui avec moi, d'ailleurs moi je suis Patrick Béja, et j'ai aujourd'hui avec moi le prince des vidéos de qualité sur YouTube, Jérôme Kainborg, et le chef de l'internet francophone et de certaines parties de l'internet mondial, Corben Manuel Dorn. Comment allez-vous, messieurs?
Salut Patrick.
Bah, ça va, mais oui. Pourquoi je suis que le prince, c'est qui le roi?
Marcus Brownlee.
La reine Marion, c'est ça.
La reine Marion, absolument.
Voilà. Ça devient bizarre parce que du coup, ça veut dire que Jérôme est le fils de la reine.
À cette époque, ça se faisait beaucoup.
Hein. Le sang bleu, généralement très dilué.
Pas très dilué, oui, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Bah, écoutez, vous êtes en forme. On a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. On a la conférence Google de demain dont on a déjà toutes les informations en exclusivité. On a Snapchat qui se transforme en Snap et qui sort des lunettes qui ne sont pas des Google Glass. J'ai beaucoup vu cette comparaison, elle m'a beaucoup énervé. On a Twitter qui va se vendre ou essayer de se vendre peut-être. On a Amazon qui a fait plein d'annonces pendant la conférence Twitch. Enfin, tout plein de choses dont on va discuter et d'autres choses encore comme par exemple la loi numérique qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Mais justement, puisqu'on parle de la loi numérique, on va aussi parler d'Axel Lemaire, qui est donc la secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Et je voulais juste dire un tout petit mot, parce que, comme ceux qui m'ont suivi sur Twitter le savent, j'ai passé une heure et demie à discuter avec Madame Lemaire, qui a eu la gentillesse de me recevoir chez elle au ministère et tout. C'était hyper impressionnant.
En fait, il y avait des poires et des cahuètes ou
non, ils m'ont gentiment proposé.
Non, t'as rien à manger, rien à boire.
Si, ils m'ont proposé des trucs à boire. Moi, j'ai pris qu'un verre d'eau. Et d'ailleurs, les gens à l'accueil du ministère sont adorables. Enfin, à l'accueil de l'étage, en tout cas, où est Madame le maire. Je sais pas comment sont les autres. Mais ils ont un super jeu avec des M&M's. Enfin, un jeu. Ils distribuent des M&M's à tous ceux qui passent. C'est hyper sympa.
Bon, c'est avec nos impôts encore, ça.
je pense qu'ils payent les M&M's de leur poche, mais je sais pas. Mais, ils m'ont proposé à boire. Hein. J'ai pris un verre d'eau très modestement, hein, tu vois, pour ne pas me laisser influencer par le luxe du coca.
Un homard et du champagne, s'il vous plaît.
C'était très intéressant. On a discuté pendant une heure et demie des podcasts et du financement participatif, qui est donc une caractéristique de cette émission et de certaines autres sur la scène podcastique francophone et internationale. Et en fait, elle était curieuse de savoir comment se développait cet écosystème, je pense, pour voir s'il était possible, s'il y avait pour le pays en général des opportunités économiques, s'il était intéressant de développer la chose. Et donc, je lui ai expliqué comment ça fonctionne techniquement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les intérêts, les avantages. avantages, les inconvénients, etc. On a parlé donc du média podcast, de la technologie podcast et du financement participatif également. Et c'est vrai que j'étais plutôt bien prédisposé à son encontre, puisque vous vous en souviendrez, j'avais beaucoup parlé de la loi sur l'e-sport, enfin de la loi, des propositions qui avaient été faites sur le sport électronique et qui avait été en fait chapeauté par Axel Lemaire et donc les députés et sénateurs qui, enfin les deux qui avaient fait le rapport. Et donc j'avais trouvé que le travail avait vraiment été fait de manière intelligente. Bon, l'e-sport c'est pas un sujet trop controversé non plus, hein, mais il y avait quand même des choses à faire et ça avait été bien fait, bien géré. Ils avaient contacté les personnes qu'il fallait dans le milieu, ils avaient parlé vraiment aux gens qui travaillaient sur le terrain depuis des années sur ces choses-là. Et voilà, donc j'avais plutôt un bon a priori sur elle et j'ai été agréablement surpris, on va dire. Je devrais peut-être pas dire surpris, mais parce qu'elle posait les bonnes questions, elle avait une appréhension de la technologie et des problématiques. En fait, tu sentais que c'est pas quelqu'un qui comprend rien et qui essaye de poser des questions, mais tu sens qu'elle est pas artificielle dans le truc, quoi. Donc
Mais donc, voilà, quand tu parlais, ouais, justement, le crowdfunding, c'est aussi par rapport un peu au flou qu'il y a, par rapport, on ne sait pas bien si c'est des dons, si c'est des, il y a toujours une ambiguïté aujourd'hui, ouais.
Bah oui, il y a beaucoup de ça, il y a une question d'ambiguïté du statut des dons. Alors j'ai parlé effectivement de tout ça, on a parlé de l'importance des podcasts indépendants par rapport aux podcasts institutionnels, on va dire, de la presse classique, du statut même des podcasts. On a eu des réflexions sur la possibilité d'être considérés comme des organes de presse finalement, ce qui pourrait avoir différents avantages. Bon, c'est très préliminaire, hein, tout ça. C'était juste une conversation d'une heure, donc il faut pas penser que ça va avoir des conséquences incroyables. Mais je voulais le mentionner ici, d'une part parce que moi ça me fait forcément besogneux du podcast depuis 10 ans. Ça me fait plaisir d'être reçu par les instances de l'État, donc évidemment ça me flatte un petit peu. Et puis surtout parce que j'ai trouvé l'initiative intéressante. Et puis vous savez que on aime beaucoup critiquer tout le temps partout, et puis dire quand il y a des choses qui nous paraissent positives qui arrivent. Donc voilà, je voulais le mentionner. Et puis on va parler de la loi, bien sûr, de la loi numérique qui a été votée il y a une semaine de ça. Donc on va la détailler un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais le mentionner rapidement en entrée d'émission parce que ça m'a évidemment, c'est pour un petit podcast fait comme ça, être reçu au ministère, c'est bien sûr un événement, quoi. Donc généralement je non, parle pas bien, trop, hein. des choses genre ça peut sembler un petit peu genre marketing, on t'invite là pour que tu parles de nous. Et bon, moi généralement
je pense pas,
quand
je pense que c'est vraiment pour te poser des questions après
c'est ça, oui.
Après, je sais pas ce qui va suivre derrière, enfin tu vois ce que je veux dire.
Ah bah c'est sûr, est-ce que ça va donner
bien
quelque chose, j'en sais rien.
En tout cas.
C'est sûr. Il est possible que ça donne quelque chose. Je vous en dirai plus, bien sûr.
Non,
si ça se...
même s'il en ressort rien, le fait même que tu étais invité, c'est une considération sur le fait qu'il y a des indépendants qui font aujourd'hui des audiences tout à fait comparables à des groupes de presse déjà établis et financés, et que il y a une vraie opportunité pour d'abord la liberté d'information, mais même pour de la création d'emplois, enfin tout ce tas de choses. Donc c'est bien que ça soit reconnu, quoi, qu'on sorte un peu du ghetto, quoi.
Ouais, on est d'accord, c'est sûr. Et puis on a de plus en plus d'articles sur les podcasts. Là, à la rentrée, je sais pas pourquoi, j'ai donné 3-4 interviews. J'ai l'impression que le podcast continue son cheminement tout à fait atypique dans le monde de la tech, qui est que c'est pas une explosion de popularité et puis une chute immédiate, ou alors une explosion qui continue à être populaire. C'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une progression constante qui ne s'arrête pas, et c'est vraiment une anomalie dans le milieu de la tech. C'est toujours de plus en plus populaire, mais lentement, et ça continue depuis 10 ans. Donc voilà, c'est intéressant que les gens s'y intéressent.
Là, tu parles de ton audience ou du
je parle de l'audience du podcast, en général. En général, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensaient il y a 10 ans, enfin, ou plutôt il y a 6 ou 7 ans, voilà, le podcast c'est fini, on en a entendu parler à tel moment, mais maintenant c'est fini. Et puis pareil, il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Et puis en fait, ça disparaît jamais, ça continue, ça reste dans le background. Ouais.
Quand je prospectais à l'époque de No Watch, plein de gens disaient mais le podcast c'est fini, on n'en entend plus parler. Non, mais c'est vrai que c'est un phénomène de fond. C'est pas un phénomène de mode, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est bien.
Bon, bah parlons de sociétés qui ont un énorme succès. Donc il y a Google qui va faire sa conférence maintenant un petit peu plus de 24 heures, un petit peu plus que ça au moment où on enregistre. Et le truc, c'est que encore plus que pour la conférence Apple d'il y a quelques semaines, on a vraiment toutes les informations là. On a eu des leaks un petit peu partout. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est dont on pense que ça va arriver, et puis vous allez me dire ce que vous retenez, ce qui vous paraît important. Alors évidemment, la première chose, c'est les téléphones, les Pixel et Pixel XL, donc deux modèles, un de taille, un grand et un très grand, on va dire. Le truc qui est notable, c'est qu'ils vont pas être sous la marque Nexus. Ça va être des téléphones, évidemment, qui sont fabriqués par un partenaire, en l'occurrence sans doute HTC, qui sont designés par Google et qui ne sont pas sous la marque Nexus, mais qui vont être sous la marque Pixel, qui est beaucoup plus proche de Google. Ces téléphones sont des téléphones, alors on a toutes les caractéristiques techniques, mais d'une manière générale, ce sont des téléphones qui sont plutôt des téléphones premium, c'est-à-dire qu'on sera sans doute dans une gamme de prix qui commence autour des 600-700 euros, et contrairement au Nexus qui était plutôt, dans la gamme de prix des téléphones milieu de gamme. C'était cela un petit peu qui avait commencé la gamme des milieux de gamme presque premium, mais là on sera vraiment un cran au-dessus. Ça sera vraiment des téléphones de grande qualité. On a aussi le Google Home qui est un petit peu le concurrent d'Amazon Alexa, vous savez, le petit truc qu'on met dans son salon et auquel on peut, qui a un micro et un haut-parleur et on peut lui parler. C'est un assistant qui est disponible un petit peu partout. On a le Chromecast Ultra qui sera un Chromecast qui gérera la 4K et le HDR. Donc a priori c'est ce qui va arriver aussi. Le Google Wi-Fi qui est en fait cette série, vous savez, c'est assez à la mode des routeurs qui un réseau Wi-Fi distribué qui en fait dans différents endroits de la maison vont avoir le même réseau Wi-Fi avec différentes machines. Donc on n'a pas besoin de passer d'un réseau à l'autre. C'est vraiment une sorte de réseau Wi-Fi distribué. Et enfin, la grosse question, c'est Andromeda, qui est un système d'exploitation qui serait à mi-chemin entre Android et Chrome OS pour un nouvel appareil qui serait une tablette fabriquée par Huawei. Et donc ça serait une tablette qui a un nouveau système d'exploitation, un petit peu plus desktop que Android, mais donc un petit peu plus proche de Chrome OS, mais qui soit pas vraiment 100% basé sur le navigateur comme les Chrome OS aujourd'hui. Donc des gros morceaux quand même, c'est une grosse conférence. Moi je suis curieux de savoir ce que vous retenez de toutes ces annonces potentielles qui sont encore, rappelons-le, des rumeurs à ce stade. Peut-être Corben, je t'entendais commenter.
Ouais, bah moi ce qui m'a fait marrer, c'était le routeur là, je sais plus le nom du routeur Wi-Fi.
C'est Google Wi-Fi en fait.
C'est ça. Alors bon, effectivement, j'ai vu ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire un routeur qui permet d'étendre son réseau Wi-Fi. Au final, c'est un petit appareil qu'on en met plusieurs chez soi et ça permet d'étendre la couverture Wi-Fi. J'ai pas bien compris en fait pourquoi Google propose ça, sachant que c'est déjà des choses qui sont proposées par, enfin il y a déjà des appareils qui existent, il y a déjà
France
techno existe déjà là-dessus, en France ou même aux US, enfin après sauf si effectivement ils veulent faire un espèce de réseau où après ça se connecte chez ton voisin et compagnie, mais bon, je crois que
l'idée c'est simplement d'avoir peut-être que dans nos pays où on a un petit peu moins de place c'est moins intéressant, mais le fait d'avoir deux ou trois réseaux différents dans la maison avec des étendeurs, en fait il y a des extendeurs Wi-Fi qui existent, mais c'est de fait un autre réseau, là ça simule le même réseau partout.
Moi je te parle de trucs qui simulent le même réseau partout.
Oui, bah, c'est une technologie relativement nouvelle, on va dire.
Ah bon, ok. Bah, je sais pas. Parce que moi, j'ai fait ça avec un vieux routeur Wi-Fi à la con. Enfin, il y a des options dessus, tu peux faire ça. Bon, en fait, moi, c'est le seul truc qui m'a un peu interloqué parce que je vois pas. Enfin, à part le côté un peu magique, tu branches, ça marche, c'est cool. Voilà, et t'as pas besoin de bidouiller ou de faire le barbu, mais bon.
Je pense que ça s'adresse à un public qui lève les yeux au ciel s'ils entendent le mot routeur Wi-Fi, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment. Un truc hyper simple. Et il y a alors nous, c'est vrai, pourquoi je disais la France, on a beaucoup de box qui gèrent déjà le Wi-Fi, donc on a moins de besoins. C'est pas le cas dans tous les pays en termes de marché. Et même avec nos box, moi je sais pas vous, mais moi j'ai des gros problèmes parce que j'ai tellement d'appareils Wi-Fi maintenant chez moi que j'ai des problèmes de numéro d'IP, ce genre de truc.
Ouais, les box tirent la langue au bout d'un moment quand t'as
10 produits Wi-Fi, t'as du mal, quoi. Donc peut-être que ça résoudra aussi ce type de problème.
Ouais. Bon, c'est pas exactement pour ça que c'est prévu, mais peut-être qu'il faut une box plus moderne aussi. Mais toi, tu retiens quoi alors de toutes ces annonces potentielles, Jérôme ?
Plusieurs choses au niveau du Pixel. Donc l'appareil en lui-même, physiquement et même sur les fiches de spec, il a rien de bouleversifiant. Même en design, il est très très neutre, quoi, ultra neutre. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir comment ils vont intégrer Google Assistant là-dedans, parce que leur campagne de pub a beaucoup teasé là-dessus. Ce téléphone devient finalement une fenêtre de recherche ouverte sur votre vie. C'est un peu la promesse marketing de la campagne de pub. On sait que la recherche Google ne se bornera pas à être une petite fenêtre en haut de ton interface où tu peux taper quelque chose. Qu'ils veulent vraiment en faire le fer de lance de cette nouvelle notion de Google Assistant. C'est une tendance générale dans le smartphone, je pense, pour les années à venir, toutes marques confondues. C'est qu'aujourd'hui, les smartphones sont beaucoup plus que des téléphones intelligents. Et ça va être intéressant de voir comment Google interprète finalement cette tendance dans ce nouveau truc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils effacent complètement le constructeur. Tu dis HTC parce que nous, on sait, mais Pixel, c'est vraiment by Google, quoi. Ils ont complètement effacé dans leur communiqué. On verra à l'annonce, mais je sais même pas s'ils citeront le constructeur. Donc ça veut dire quand même que Google veut vraiment reprendre la main sur Android, quitte à se mettre un peu à dos les constructeurs, quitte à remettre en question l'espèce de marché Android qui existe depuis 8 ans, où Google fournit le software et les constructeurs font ce qu'ils veulent de leur côté, quoi.
Moi, on je le pense dit
depuis
pas que...
plusieurs années.
Moi, je crois que justement la transition a été habile parce qu'ils le font depuis un moment et que aujourd'hui, effectivement, ça posera pas plus de problèmes que ça que Google et son propre téléphone. On se souvient qu'il y a 3-4 ans, sans doute l'une des raisons aussi pour lesquels il faisait Nexus par HTC, par LG, par machin, c'était aussi pour ménager leurs partenaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est à un stade où, bon, oui, ils ont leur téléphone aussi, transition est douce, quoi.
On sait quand même que Google est assez énervé par la latence de mise à jour des autres constructeurs.
Ah, ça, c'est sûr, oui.
Et qui est très mauvaise pour l'image de marque d'Android d'une manière générale. Donc, bon, on verra, mais c'est peut-être un vœu pieux de ma part, mais que Google reprenne la main sur ce qu'est Android est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose, moi, que je retiens, c'est un tout petit peu plus anecdotique, mais Google Home versus Alexa versus rumeur que Apple est en train de bosser sur un truc dans le genre. Je pense que Google se sert vachement de Chromecast et finalement de la stratégie de Chromecast pour rentrer dans les foyers. Ça va être très intéressant de voir le prix de leur système Google Home. Est-ce qu'ils vont faire comme la Chromecast pour rentrer chez les gens?
Non, alors les rumeurs sont plutôt autour des $130 aux États-Unis, donc on imagine autour de 130-150 euros ici. Donc on a un prix quand même beaucoup plus élevé qu'un Chromecast. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce que je me retrouve... Pardon, vas-y, finis.
Non, c'était juste pour terminer que, ça aussi, on le dit presque depuis 10 ans, mais je pense que ça y est, on y est. Le salon, la salle de notre chambre, etc., c'est le nouveau C'est le nouveau truc qu'ils cherchent à avoir.
Le nouveau champ
quoi.
De bataille, ouais.
Ils savent que les smartphones, c'est maintenant le marché est mûr, il bougera
c'est
plus.
C'est un
beaucoup.
Produit de consommation, donc.
Ouais, voilà. Donc, vraiment, l'arrivée dans les salons, au niveau du grand public, nous, on est déjà connectés dans tous les sens, mais pour le grand public, ça va se jouer à partir de maintenant.
Là, c'est un peu la course parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est déjà vachement segmenté, en fait, tout ça. Comme à l'époque, les téléphones, les smartphones, Android, même les différents OS. Et je pense que du coup, c'est un peu la course au truc. Et à mon avis, ça va passer. Alors après, c'est peut-être mon côté un peu libriste, entre guillemets, entre double guillemets même, là-dessus. C'est que je pense que ça va. Enfin, c'est celui qui va intégrer le plus de. Enfin, qui va être le plus compatible. Avec les constructeurs, donc s'associer avec les constructeurs pour proposer des fonctionnalités comme il y avait avec Apple HomeKit ou Google Home ou je sais pas, enfin voilà, mais ça va être un peu
en fait, je crois que
la nouvelle guerre en fait.
Non mais c'est complètement le cas, et moi j'irais même encore beaucoup plus loin que vous n'allez vous. Tu fais bien de le signaler, enfin vous en parlez tous les deux. Alexa est arrivé un petit peu de nulle part, cet assistant d'Amazon. C'est en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil qu'on pose dans son salon, dans sa cuisine, qui a un micro et un haut-parleur, et qui est donc l'assistant, l'équivalent de Siri, Google Assistant aujourd'hui, etc., ou Cortana. Et qui est l'assistant dans une petite boîte qu'on peut poser partout et avec lequel on interagit par la voix et en écoutant, par la voix et par l'oreille. C'est un petit peu comme les podcasts en fait. Et du coup, ce truc a eu une popularité qui n'était pas attendue et ça a accéléré un mouvement qui était déjà présent. Et moi, je crois que c'est carrément le coup d'envoi de cette bataille qui, comme vous le dites également, va être le prochain champ de bataille, mais pas juste pour notre salon, notre cuisine, notre maison, pour le prochain, limite pour le prochain système d'exploitation. C'est-à-dire que il y a la recherche, on le voit bien d'ailleurs sur iOS, aujourd'hui quand on fait une recherche en descendant, en allant à droite ou en descendant le petit champ de recherche sur iOS, la recherche se fait selon ce que vous... Enfin, c'est une recherche Apple, c'est plus une recherche Google. Il va vous envoyer vers des médias qu'ils ont dans l'iTunes Store, vers des apps, vers des résultats de recherche de plans, c'est vraiment... de la même manière qu'on est passé du système d'exploitation à Internet avec Google qui domine, je crois que là c'est la prochaine étape, la prochaine disruption possible. Avec, c'est presque un prochain système d'exploitation, comme je le disais, j'en parlais il y a des années de ça, j'avais fait un article sur mon blog où je disais le système d'exploitation ultime, c'est pas un écran, c'est la voix, parce que personne n'a besoin d'apprendre comment ça marche pour interagir avec. Et c'est marrant, on a fait un article, une interview pour Mashable, et ils nous ont demandé, on était plusieurs à parler du futur du smartphone. Genre à 10-15 ans, évidemment, c'est impossible de dire ça, mais ce vers quoi on se retrouvait tous, il y avait genre 4-5 experts de la tech, ce vers quoi on se retrouvait tous, c'était l'intelligence artificielle aura un rôle majeur. Et l'intelligence artificielle qui passe par ses assistants virtuels, et donc Google Home, et comme tu le disais Jérôme, Apple qui travaille à un truc équivalent et qui suivent donc tous le Alexa d'Amazon, c'est ça. C'est la matérialisation de cet assistant virtuel qui est en fait une intelligence artificielle dans le monde physique. Et donc pour moi, c'est absolument majeur, quoi.
Il y a un acteur, vous avez oublié là dans ce que vous citiez, c'est Microsoft, quoi, parce qu'ils ont aussi sorti leur Cortana, et surtout c'est les premiers à tirer, justement, je rebondis sur l'OS à la voix, c'est les premiers à tirer avec un Windows, donc un système d'exploitation qui n'a pas d'interface, qui tourne sur Raspberry Pi, etc., qui est en fait un vrai noyau Windows sur lequel les développeurs Windows peuvent mettre au point leurs applis. Voilà, ça fait partie aussi du truc, donc c'est enfin pour moi. Oui, t'as raison, c'est des interfaces qui vont se développer. Après, je suis désolé, hein, mais pour tester Siri, là, depuis deux semaines, le truc comprend pas grand-chose non plus. Hein. C'est très basique hein, comme truc.
Mais on est au début, tu vois, on est dans les fondations du truc qui est en train de se construire.
Ouais. Et si on veut aller dans les détails, Siri essaye de faire quelque chose d'un tout petit peu différent, c'est que Apple a un positionnement, on vend pas vos données pour développer notre intelligence artificielle. Donc, ils essayent en fait de rendre un téléphone intelligent sans collecte de données énormes, tu
oui
vois.
Et non, il y a la question de la differential privacy là qui vend ouais. pas les données effectivement, mais qui collecte quand même les données
qui
de manière anonyme.
Oui, mais ce que je veux dire c'est que du coup c'est un tout petit peu plus compliqué pour eux dans l'utilisation des données. Mais tout ça pour dire, tu parlais de la bataille des standards et que celui qui gagnera. Le problème, c'est que je pense qu'on va avoir une bataille extrêmement redoutable. Et alors, aujourd'hui, on a fanboy Apple, fanboy Android qui s'affrontent. Mais là, ça va être le grand public qui va finalement avoir des assistants personnels, soit Cortana, soit Alexa, soit Google, soit Siri.
C'est impossible qu'on voit un produit équivalent chez Microsoft dans quelques semaines avec leur conférence aussi.
Ouais. Et du coup, parce que là, ça dépasse même l'écosystème, j'ai envie de dire.
Ah non,
tu seras presque obligé d'acheter des produits de l'assistant personnel que tu as choisi. Donc, la bataille de tranchées va être terrible. Oui. Et il y a quelques intelligences artificielles qui vont mourir dans le tas.
Ah, mon Dieu, quelle vision d'horreur on voit.
On entendra le dernier rumeur. Éprouve voilà. un sentiment.
On entendra les derniers mots de Siri. Je n'ai pas compris ce que vous voulez me dire.
Les questions qu'on va se poser dans les 20 prochaines années. Mais c'est passionnant, ouais. effectivement. On est à l'aube, vraiment, à l'aube, j'allais dire au crépuscule, à l'aube d'un nouveau grand changement, je pense.
Hein, mais bon. Avec la domotique, avec plein de trucs ouais. aussi, tout ça, c'est cool.
On pourrait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, on pourrait aussi parler de Daydream, donc leur écosystème de réalité virtuelle qui va arriver. On pourrait beaucoup plus parler d'Andromeda, donc ce nouveau système d'exploitation. Mais je pense que pour ça, on va attendre d'en savoir un petit peu plus quand il aura été présenté. Ça sera dans le prochain épisode. Donc, transitionnons. Oui, pardon, Corben.
On dirait un prénom de drag queen, Andromeda.
Andromeda, c'est une galaxie accessoirement, mais
oui, c'est une galaxie de drag queen.
Je sais que c'est une galaxie, mais bon, je sais pas, moi je vois une drag queen.
Pourquoi pas.
Chacun son trip.
Tu vas nous raconter ta dernière cuite. Tu réveilles un peu difficile avec Andromeda.
passons donc à Snapchat. Non, pas Snapchat. Snap. Et donc je me disais en faisant
Snap Inc,
c'est ça. En faisant le line-up des émissions, je me disais quand même les noms, c'est genre, il y a Google, il y a Snap, il y a Tweet, il y a Twitch, il y a, enfin, ces noms sont assez, enfin, Twitch, je dis Twitter, mais bon, bref. Bon,
on
s'en fout.
Pour notre époque d'abruti.
Oui, c'est ça. Non, moi, ça me fait penser au.
Dans 2000 ans, qu'est-ce qu'ils penseront de notre génération qui faisait toujours Snap, Tweet, Pop, Snap, Crick.
Non, mais il restera. C'est comme partout. Hein. Il y a des abrutis tout le temps, mais à la fin, on ne retient que les trucs cool. Donc, tu vois. En fait, dans 2000 ans, ils écouteront le rendez-vous tech et ils diront, ah ouais, quand même, on faisait des trucs bien dans les années 2000. Hein. Ouais,
je le souhaite
pas.
Ouais. Ou alors, espérons. La régression, la chute de l'Empire occidental a commencé là.
C'est ça. C'était l'aube du crépuscule.
L'aube du crépuscule. Tu sais, c'est le titre de l'émission, je crois. L'aube du crépuscule, ça va coller, ça.
Bah, écoute, je me demande si ce changement de Snapchat en Snap ne contribuera pas à cette aube du crépuscule, puisque nous avons en fait une annonce qui a été faite il y a quelques jours par Snapchat qui s'oriente beaucoup plus vers une société de caméras. Et le changement de nom est presque là pour se différencier des applications de chat finalement qui sont hyper présentes absolument partout, hein. On a des applications de chat qui sont la grosse folie du moment, et Snapchat a visiblement voulu s'orienter vers quelque chose de plus visuel, beaucoup plus visuel que l'idée du chat. Donc quand je dis de caméra, c'est les appareils photo de tous nos téléphones et de toutes nos, enfin de plein de formes de caméras. Et l'une des formes, c'est les spectacles, qui veut dire lunettes, c'est un vieux mot pour dire lunettes en anglais, qui sont en fait des lunettes de soleil avec des couleurs hyper vives et qui ont une petite caméra intégrée qui peuvent enregistrer 10 secondes de vidéo quand on appuie sur un petit bouton tactile sur le côté de la caméra, et on peut étendre ça à 30 secondes mais pas plus. et elles transmettent la vidéo à Snapchat par Wi-Fi ou par Bluetooth, et comme ça on peut les poster, et ils disent c'est une manière hyper visuelle de voir l'action, enfin l'action comme si on le vivait par les yeux de la personne qui porte les lunettes. Alors elles coûtent $130, elles sont en quantité très limitée, hein, c'est pas un truc qui vont vendre énormément, c'est presque un truc de représentation, de marketing. Et comme je le disais, moi, il y a un truc qui m'a énormément énervé, c'est la comparaison avec les Google Glass, ce que je comprends plus ou moins, mais le truc c'est que, enfin je comprends parce que c'est des lunettes et qu'il y a une caméra, mais les Google Glass, c'était une sorte d'interface informatique, ouais, un ordinateur presse sur vos lunettes, alors que là, c'est juste une GoPro. La comparaison beaucoup plus apte,
oui,
c'est
oui,
d'avoir
c'est au lieu
une
d'avoir
GoPro
un bandeau
sur vos
autour de la tête avec ta GoPro, t'as une caméra dans tes lunettes, quoi.
Voilà. On peut pas empêcher les gens d'être cons. Hein.
Écoute, ça pourrait être un titre de l'émission, ouais. Et c'est même une bonne leçon de philosophie pour la vie. On peut pas empêcher les gens d'être cons. mais oui, donc c'était quand même un gros mouvement pour un gros acteur du.
Un gros mouvement, ça va. Quoi. Enfin, déjà, ils ont changé de nom et ils font un petit buzz avec des lunettes.
Ouais, mais là où je suis d'accord avec Patrick, c'est. D'abord, Snapchat s'est pris des grosses baffes dans la gueule de Facebook ces deux, trois derniers mois.
Ah non, mais Snapchat, il est attaqué
de toutes parts. Et quelque part, ces lunettes, et comme le dit très bien Patrick, ils les sortent pas tellement pour les vendre. Ils les sortent plutôt pour faire c'est un repositionnement, et c'est pour ça qu'ils vont s'appeler Snap Inc. Il y a un truc qui est très intéressant chez Snapchat, j'avais lu un article là-dessus. Ils n'ont pas du tout la culture San Francisco Silicon Valley. Snapchat, c'est des mecs de Los Angeles, et ils sont beaucoup plus proches d'Hollywood, de la mode, du cinéma, des médias en fait.
Ouais, bah moi je suis plus de la tech et des moutons.
Oui, mais toi, quelque part, maintenant, le Massif Central, c'est la culture Corben, quoi. T'as influencé la région. T'es la Corben Valley, en fait.
Mais cette influence Hollywood, ça se voit un petit peu dans leur visuel. Les photos qu'ils ont sorties pour accompagner le truc, c'est vraiment, des photos hyper travaillées. Mais du coup.
Et ces spectacles, ils les sortent vraiment, à la fois comme des jouets, enfin, c'est vraiment mettre le fun en avant. Tous les problèmes aussi, quand tu parlais des Google Glass, qui avaient fait réagir sur la caméra embarquée des Google Glass, c'était les problèmes de confidentialité. Je trouve qu'ils les ont habilement abordés. Il y a une grosse loupiote qui indique que la caméra est en train de fonctionner.
Ouais, donc des ça LED, sera en difficile. Fait, qui s'allument, quoi. C'est dur de ne pas savoir quel film.
Bah, disons que tu peux mettre un gros morceau de Chatterton sur tes spectacles, mais tu vas déjà pas être discret parce qu'elles ressemblent quand même à des lunettes pour le coup de drag queen, hein, rappelons-le, en termes de design. On y revient. Et si tu mets un gros morceau de scotch sur les trucs, tu vas pas être super, super discret, quoi. Lunettes d'espion.
Sur Snapchat spécifiquement, Corben, tu disais ils sont complètement encerclés, et c'est vrai au niveau du chat, et ça explique un petit peu leur mouvement. La raison pour laquelle on en parle autant, c'est que Snapchat, c'est énorme, c'est une énorme entreprise qui a pris le monde by storm, comme on dit en anglais. Toi, tu utilises toujours Snapchat, Corben, parce qu'à un moment vous étiez un petit peu dessus. T'es toujours dessus, t'en penses quoi, comment ça évolue, comment tu appréhendes ce changement avec le...
Moi, je l'utilise toujours parce que j'ai encore, parce que j'aime bien et voilà. Et après, j'ai vu qu'effectivement, il y avait Instagram qui avait sorti. Parce que moi, j'aime bien le système des stories, en fait, pouvoir parler et puis publier une story. Après, j'ai vu qu'Instagram le faisait. Enfin, il y a plein d'autres applications.
Moi, j'utilise beaucoup les Instagram stories. J'ai arrêté Snapchat et
Pour ça que je dis que voilà, c'est dur de quand on utilise Instagram de pas basculer complètement sur Instagram et de larguer Snapchat, quoi. Après, j'aime bien, je continue à bien aimer. Après, c'est vrai que ça stagne un peu au niveau fonctionnalité, au niveau évolution, et comme maintenant beaucoup d'applications en gros ont copié Snapchat et font la même chose, leur valeur ajoutée, elle est un peu moindre, si ce n'est la communauté, quoi.
D'accord.
Donc je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent des idées. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il va falloir
c'est ça leur idée. C'est le fait de se transformer en société. Parce qu'ils ont quand même, on dit l'idée du chat et de ce genre de choses, mais ils ont quand même, ils se sont orientés vers la communication avec la possibilité de voir des, c'est presque une société de médias quoi. Il y a énormément de
Bah d'ailleurs, moi je suis déçu parce qu'en fait là dernièrement ils ont mis donc les stories, enfin c'est pas les stories, les discover là, la partie discover où on avait
c'est
du,
ça,
du contenu.
C'est du contenu, moi, c'est des reportages, des petits reportages qui sont assez bien faits d'ailleurs.
Ouais, c'est très bien fait. Moi, j'aimais bien passer un peu de temps là-dessus, mais c'est vrai que moi, je regardais surtout du contenu. Bah, c'était américain, quand même. C'était au début. Maintenant, il n'y a que du contenu français. Et bah, j'ai un peu lâché le truc parce qu'il n'y a plus cet exotisme que je retrouvais en Snapchat où je me
tenais
un peu au
courant. Et tu peux pas choisir d'aller sur la partie américaine?
Bah, écoute, j'ai pas trouvé. Après, j'ai pas non plus cherché 10 ans, mais il m'a switché automatiquement. Donc là, maintenant, j'ai Le Monde, j'ai Melty, etc. Donc, c'est beaucoup moins intéressant, quoi.
Ouais. Donc voilà pour Snap Inc. La raison pour laquelle on en parle, c'est que vraiment c'est une direction, un changement de direction un petit peu inattendu pour Snapchat. Et ce qui est important, c'est qu'ils se mettent un petit peu de distance avec cette idée du chat qui effectivement est maintenant omniprésente un petit peu partout. Twitter serait en train de se mettre en vente. Alors on parle des déboires de Twitter depuis des mois maintenant, qui en fait le gros problème c'est qu'ils n'ont pas de croissance d'utilisateurs et ils n'arrivent pas à augmenter leur nombre d'utilisateurs. Ils sont autour de 310-315 millions, ce qui est pas ridicule hein, mais il n'empêche c'est, on est loin des gros réseaux sociaux, des autres gros réseaux sociaux, que ce soit Instagram, bien sûr on parle de Facebook mais pas seulement hein, Instagram etc. Et en nombre d'utilisateurs, oui, on parle d'applications de chat, pareil. Comment elle s'appelle ? L'autre application de chat, WhatsApp, voilà. WhatsApp, on a plusieurs, etc. Et donc Twitter a des problèmes. Il serait en train de faire une, d'avoir des discussions avec différentes sociétés pour une possible vente. Alors les trois noms qui sont venus le plus souvent, c'est Salesforce, Google et Disney, Walt Disney. Y a des gens qui sont sur le board des deux sociétés, donc enfin des CEO de Twitter qui sont au board de... C'est au bord de Disney, je sais plus. Enfin, il y a des gens
de
qui
Disney,
se connaissent, c'est
oui,
ça.
Jack.
C'est Jack.
Jack Dorsey est au bord de Dorsey, Disney. Ouais.
Donc voilà, ils se connaissent un petit peu. Et puis on dit aussi pas mal que souvent les sociétés disent qu'elles sont intéressées. Enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont intéressées parce que ça leur permet d'avoir accès aux comptes de la société en question. Donc peut-être qu'il y a des concurrents qui vont se dire on va aller regarder où ils en sont, hein, même si on veut pas vraiment les acheter. Mais voilà, Disney. Ce qui pourrait être cohérent, même s'il y a de gros points d'interrogation, parce que Twitter se définit comme une société de contenu. Salesforce, parce qu'il y a une force du service après-vente qui est hyper bonne sur Twitter. Moi, j'ai eu beaucoup plus de trucs résolus sur Twitter qu'en contactant les services après-vente. Et Google, qui chasse son réseau social depuis des années maintenant, qui n'a jamais réussi à en faire un qui tienne la route, avec des succès plus ou moins... successful, mais jamais satisfaisant. Donc voilà, trois trucs qui pourraient peut-être être cohérents. Vos analyses sur la chose,
bah,
peut-être
moi,
ouais, bah vas-y, Corbin.
Ouais, non, c'est parce que enfin, moi, ça me fait peur. Enfin, en même temps, c'est logique que ça se fasse racheter à un moment, parce qu'effectivement, il stagne un peu. Maintenant, j'ai peur de la transformation du truc, quoi. Soit les mecs vont le laisser en l'état, soit ils vont le réintégrer dans un nouveau produit ou dans un produit existant, et là, j'ai peur que ça se dépeuple. Mais bon, après, sur... comme à chaque fois qu'il y a une mutation, il y a un truc qui change et les gens se barrent et trouvent autre chose. Donc peut-être que les gens de Twitter migreront sur un nouveau système si jamais ça part un peu trop en couille. En gros, si Google par exemple achète Twitter et en fait un Google Twitter Plus qui de toute façon est déjà un peu vide. Bon,
bah, moi je crois que tu vas un peu vite en besogne. Hein. Moi je crois qu'il est tout à fait possible, comme on l'a vu avec Facebook qui a racheté différentes sociétés, qu'ils ont laissé tranquille, plus ou moins, hein, mais enfin quand même, généralement ils y ont pas énormément touché. Il est tout à fait possible que la société qui leur achèterait, si ça s'avère vrai, les laisserait tranquille aussi. C'est assez possible.
Moi, si j'étais Facebook, je rachèterais Twitter.
Ah bah Facebook, oui, Facebook à la limite ils en ont peut-être pas besoin, mais là ça ferait, le problème avec Facebook c'est que ça ferait concentration de position dominante sur le marché des réseaux sociaux, et je suis pas certain qu'ils veuillent ça. Mais Ouais, Jérôme, t'as un préféré ou une idée sur lequel est le plus crédible parmi tous ces prétendants?
Déjà, un truc que je voudrais dire avant, c'est un peu ce que j'avais dit dans un autre rendez-vous tech. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui, alors que toi et moi, ça fait presque 2 ans qu'on dit Twitter va mal, Twitter va mal.
Bah,
et
va mal, oui et non. Hein.
Oui.
Ils stagnent, donc au niveau boursier, ils vont mal, oui, c'est vrai.
En fait, le problème, c'est... c'est que le vrai problème de Twitter, c'est qu'ils ont deux problèmes. Ils stagnent au niveau audience et ils n'arrivent pas à monétiser celle qu'ils ont. Ils ont donc un double problème, ce que n'aime pas effectivement la bourse. Et le truc que je disais dans le rendez-vous tech il y a quelques temps, c'est il suffit pas d'être utile pour être rentable. Et quand Corbyn dit « Oui, mais les gens iront vers un autre service parce que de toute façon, Twitter, on utilise sa fonction », oui et non, parce que au bout d'un moment, si la Silicon Valley se dit le fait d'échanger des messages de 140 caractères, tout le monde trouve ça utile, c'est génial. Mais en même temps, il n'y a pas de business à faire autour de ça, ça risque d'être un problème. Donc, dans les acheteurs préférés, pour répondre à ta question,
Je vais juste préciser un truc. Twitter, j'ai l'impression qu'ils aujourd'hui, ils font un tout petit peu d'argent. Je suis même pas sûr qu'ils en perdent, hein. Mais
Oui, mais attends, une société qui plane, ça n'intéresse personne. Hein. Ouais. Ce qu'il faut, c'est une société qui augmente et qui a un potentiel de croissance, d'investissement et de profit. Sinon, c'est pas une société, c'est une association caritative.
Ou alors, il faut qu'elle fasse beaucoup d'argent. Et en l'occurrence, c'est pas le cas par rapport à ce qu'elle coûte. Si elle rapporte beaucoup d'argent, bon, bah voilà, c'est une vache à lait.
Pour parler, parce que je sais qu'on froisse rapidement les Français quand on parle de profit, mais si une entreprise n'a pas la capacité d'investir pour assurer son futur en recherche, développement, etc. C'est pour ça que je dis que c'est une assoce. Une entreprise doit faire du profit pour pouvoir assurer son avenir et être en perpétuelle croissance. Sinon,
et rémunérer ses actionnaires, c'est le but. Et voilà,
on est en URSS. Mais je veux dire, en tout cas, dans les pays occidentaux, avec la loi de marché, c'est ça. Et le coup près terrible pour Twitter, parce que tout le monde me dit « mais Twitter est utile ». Oui, mais Twitter, il a beau être utile, s'il n'est pas rentable, ça ne marchera pas. L'utilité ne fait pas la valeur, hélas.
Ouais. Moi, j'ai eu une conversation sur ce ton avec des amis américains qui me disaient qu'ils ne comprenaient même pas l'idée que la société puisse continuer à exister comme ça sans continuer à croître. Et c'est vrai que la croissance, ça serait un autre débat à la limite, mais la croissance est à la fois une bénédiction, enfin cette recherche de la croissance est une bénédiction parce que ça apporte une urgence de l'innovation qui existe nulle part ailleurs. Et en même temps une malédiction parce que ça pousse il est important de voir les deux côtés. On peut pas voir uniquement les bénéfices ou uniquement les aspects négatifs. Il y a beaucoup de gens qui voient uniquement les aspects négatifs et je suis d'accord,
les gens sont surpris que Twitter doive revendre. Ce qu'ils disent, mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Pas tant que ça, et puis ça rapporte pas tant d'argent que ça, quoi. C'est ça le problème par rapport à Facebook ou par rapport à d'autres, quoi.
Et c'est pour ça que pour des sociétés comme Salesforce ou Google ou Disney, ça pourrait être intéressant.
Ce que je voulais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure chance pour Twitter, et ils ont une grande chance d'être bien revendus si la société qui les rachète a besoin de Twitter pour une offre plus globale.
Exactement.
Et pas comme un produit unique. Et c'est pour ça que les gens disent « Ah, Salesforce, parce qu'ils ont l'air chiants, ils font du B2B, c'est pas fun, ça va pas être rigolo et tout. » Mais moi, je pense que Salesforce peut... Parce que pour lui, Twitter sera une corde à son arc. Ils mettront moins la pression sur la rentabilité de Twitter que Twitter lui-même en n'ayant que ça comme business model. Et ils n'auront pas intérêt à casser Twitter non plus. Donc, tu vois, c'est peut-être une chance pour Twitter d'être acheté par une société qui lui mettra moins la pression en termes de rentabilité et qui l'achètera plus pour l'image de marque et l'utilité de Twitter.
Mon analyse aussi. Je pense que Salesforce est peut-être celui qui transformerait le moins Twitter. Alors peut-être qu'ils auraient intérêt à transformer Twitter pour le rendre encore plus attractif. Hein, je sais pas. Mais
ils lanceront un Twitter Pro à côté pour tout ce qui est dans leur activité.
Ouais. Et bon, ensuite Disney, effectivement, Twitter a essayé de se transformer, enfin, de se marketer en société de contenu ou en tout cas en diffuseur de contenu. Donc, ça pourrait intéresser Disney à ce niveau-là, même si on a lu des analyses qui disent que du coup, si Disney rachetait Twitter, ça, il se couperait, enfin, il couperait Twitter de du contenu des concurrents. Ce qui pourrait peut-être être le cas, mais en même temps, il y a des sociétés qui travaillent avec différentes sociétés, même des sociétés concurrentes. C'est une galaxie tellement énorme, Disney, que ça veut pas forcément dire que, en l'occurrence, Universal ou, je sais pas, je prends ces exemples, mais Universal ou Sony Pictures, machin, ne vont pas dire, bah non, on va plus sur Twitter parce que c'est une société de Disney. Aujourd'hui, même si il y a cette perspective un petit peu terne sur Twitter par manque de croissance et manque de profit, il n'empêche que on ne peut pas se permettre de ne pas être sur Twitter quand on est une marque publique. C'est pas possible.
C'est vrai.
Donc il y a quand même une importance fondamentale de Twitter. Et quand tu dis, Jérôme, oui, mais c'est utile, bah oui, ça suffit pas. Je suis d'accord, ça suffit pas, mais c'est quand même important. Et le fait que Twitter soit utile, ils ont pas été remplacés dans cette fonction unique de Twitter par qui que ce soit. Et je crois pas qu'ils vont être remplacés du jour au lendemain, à moins qu'ils se cassent vraiment la gueule de manière spectaculaire et qu'il faille trouver une autre solution pour faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Twitter.
C'est bien un petit évidemment, peu comme... mais le problème de Twitter tout seul, et ça on l'avait déjà évoqué, c'est que on parle de Twitter beaucoup, mais pas sur Twitter. En gros, tout le monde utilise Twitter, mais on lit que un tel a dit ça sur Twitter dans un autre média.
C'est vrai.
Tu vois, le problème, c'est que la visibilité, finalement, le temps d'attention qu'on porte à Twitter n'est pas assez important parce que finalement, on va lire l'article final ailleurs.
Et donc, c'est pour ça que
à la pub ailleurs.
Et c'est pour ça que Twitter pourrait être peut-être plus cohérent dans une offre plus globale, comme tu le disais très bien.
Exactement.
Bon.
C'est beau.
Ouais, on a résolu toute la, pas les problèmes, mais on a compris.
Non, sinon on se cotise et puis on leur achète nos Twitter.
Écoutez, je pense qu'on
fait une association.
Ouais, très bien.
On va gérer une coopérative.
On va lancer Tipeee.
Voilà. Mais vous savez, à la limite, on rigole avec cette histoire d'association, mais pour moi, Twitter est un média tellement important, enfin, un réseau social tellement important, je serais désespéré s'il disparaissait, quelle que soit la raison. Et je pense pas qu'il va disparaître, mais pour moi, c'est un réseau essentiel. Une manière de communiquer, enfin Facebook c'est gentil, mais Facebook c'est utile aussi pour parler avec des gens qu'on connaît. Twitter,
moi,
c'est magnifique. Pardon?
Moi, j'ai viré tout le monde sur Twitter, ça, je suis tranquille.
Oui, j'ai vu, t'as laissé qu'une dizaine de personnes. Mais du coup, t'as quand c'est même...
Le jour où Twitter a tremblé quand t'as dit que tu unfollowais des gens. Hein.
Bon, bref, avançons avec Amazon qui a annoncé des trucs hyper intéressants à la TwitchCon. Et c'est l'une des premières fois qu'on a quatre sujets principaux dans l'émission, parce que là, je trouve qu'on pouvait pas ne pas faire de ces annonces de la TwitchCon un sujet principal. Il y a eu plusieurs choses, deux choses qui m'ont marqué. D'une part, il y a des nouveaux jeux de Amazon qui sont des jeux qui sont très orientés e-sport et le fait de regarder les jeux sur Twitch en direct et de pouvoir interagir avec les gens qui jouent ou avec les gens qui regardent. C'est vraiment, ils font partie de ces nouveaux jeux. Il y en a quelques-uns avant, mais là c'est vraiment une énorme composante et puis une grosse offre parce que c'est Amazon qui est derrière, Amazon Game Studios, qui travaille depuis un moment. Le jeu s'appelle Breakaway, et ils ont c'est un jeu qui, on va dire, est un mélange entre un MOBA, pour ceux qui connaissent, et une sorte de foot, ou même un Rocket League. Donc c'est une sorte de foot avec des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, qui doivent trimballer, ou un handball avec des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, et l'aspect diffusion est hyper important, comme je le disais. L'autre truc qui est essentiel, c'est le fait d'avoir annoncé Twitch Prime, qui est en fait un nouveau bonus qu'on ajoute à Amazon Prime, qui est en train de s'étendre comme une pieuvre tentaculaire mondiale, qui vous offre en fait bonus pour tout. Alors Amazon Prime, on le sait, c'est la livraison en une journée gratuite, mais pas seulement. Il y a aussi la musique, les vidéos,
le
stockage. T'as raison. Il y a plein de choses dans Amazon Prime. Et aujourd'hui, il y a aussi cette diffusion, cette possibilité de soutenir des diffuseurs sur Twitch et d'avoir des bonus en jeu dans certains jeux tous les mois. Et tout ça fait que je comprends un petit peu mieux ce rachat de Twitch par Amazon. Et ils ont aussi racheté les Curse dont on parlait il y a quelque temps avec Jeff. Tout ça constitue un écosystème supplémentaire dans lequel ils sont présents. C'est pour moi deux choses. Un pari énorme sur le sport électronique. Ils mettent la puissance d'Amazon derrière Twitch pour confirmer la place de numéro un de la diffusion, parce qu'il commençait à y avoir des petits concurrents qui pointaient le bout de leur nez, et là c'est la diffusion de sport électronique, c'est Twitch et c'est tout, et ils sont en train de grossir l'offre en fidélisant les utilisateurs d'une manière spectaculaire et en développant vraiment on a une nouvelle.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Génération de jeux vidéo là qui intègrent le streaming et qui vont être à mon sens un nouveau genre à l'avenir. C'est les jeux qui sont vraiment conçus pour le streaming et l'interaction avec les spectateurs. Et en plus de ça, c'est ils amènent une communauté de shoppers Amazon, de clients Amazon. Énorme, parce que en intégrant Twitch, enfin, il y a vraiment aucune raison, mais aucune raison, si on aime, si on fait du shopping sur Internet ou si on aime bien regarder du sport électronique sur Internet, il n'y a plus aucune raison de ne pas être membre Amazon Premium. Je dis Prime depuis tout à l'heure en France, ça s'appelle Premium. Mais il n'y a aucune raison de ne pas être membre Amazon Prime, c'est assez bon marché. Et évidemment, je suis sûr que Jérôme aurait dit ça, mais je vais le dire avant lui, Amazon Prime n'est pas là pour faire de l'argent pour Amazon directement, mais pour fidéliser les utilisateurs qui vont ensuite évidemment être beaucoup plus prompts à aller faire leur shopping sur Amazon qu'ailleurs. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens. Et Amazon connaît une croissance monumentale depuis un an et demi, ça continue. Et c'est vraiment, on parlait de croissance, ils trouvent des moyens de continuer à grossir et à proposer des services intéressants. Enfin, cette offre Twitch Prime est une merveille pour le consommateur, parce que ça permet de faire, et pour les diffuseurs, parce que ça vous permet, avec Amazon Prime, de donner de l'argent, entre guillemets, gratuitement à un diffuseur par mois. Donc vous vous abonnez en fait à une chaîne par mois, et donc ça rapporte de l'argent encore aux gens qui créent ce contenu. Je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais pour résumer, gros pari sur l'e-sport, énorme pari sur l'e-sport et fidélisation d'une énorme partie d'un gros groupe de clients supplémentaires. Donc ça, c'est mon analyse. Jérôme, peut-être.
T'as presque tout dit. Y a une chose que je trouve très intéressant, c'est un petit détail dans tout ce que tu as annoncé, mais c'est ce dont t'as parlé en dernier, que avec ton abonnement Amazon Prime, tu allais à travers Twitch pouvoir soutenir finalement une chaîne de ton choix par mois. Et je reboucle avec Axel Lemaire dont t'as parlé au début. Je trouve ça très intéressant. Qui commence à y avoir des marques, imaginons même des opérateurs ou des choses qui, en gros, te donnent un pécule que tu peux dépenser pour soutenir un contenu.
Contenu tu vois ce que je veux dire? Contenu qui est sur une plateforme.
Oui, sur une plateforme, qui leur appartient. Effectivement, leur boucle est bien bouclée. Mais je trouve ça intéressant parce qu'avec la multiplication des abonnements et tout ça, c'est vrai que ça, c'est un petit peu difficile pour le crowdfunding, se dire, ah, oh, je vais encore donner de l'argent par mois alors que je paye déjà mon abonnement opérateur, etc. Enfin, tous ces abonnements se rajoutent les uns après les autres et commencent à faire flipper les ménages, hein, disons-le. Je trouve ça intéressant qu'on commence à avoir dans des bouquets ou dans des offres, de l'argent pour soutenir des créateurs qui certes sont sur la plateforme de la même offre, mais qui sont quand même des créateurs indépendants entre guillemets. Ouais, donc ça, je trouve ça intéressant. Ouais.
C'est vrai.
Ouais, Corben, un autre truc à ajouter avant qu'on.
Non, pas spécialement. Non, d'accord. Moi, je trouve que c'est bien joué de leur part. Là, tu me fais découvrir en fait qu'il y a des jeux qui sont pensés pour de la diffusion. Donc, j'ignorais ça et je trouve ça intéressant.
Bah, on va s'en plonger un petit peu plus dedans dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, allez écouter cette autre émission que je produis en alternance avec le rendez-vous tech. Mais c'est vrai que ça existait déjà un petit peu avant. Mais là, la manière dont Amazon s'est lancé dans le truc avec ce jeu Breakaway est vraiment intéressante. Ça a été pensé pour ça depuis le début. Et la raison pour laquelle c'est tellement passionnant, c'est que l'e-sport rentre vraiment en concurrence avec le sport. Et avec Twitch, ils ont récupéré un public jeune qui se désintéresse peut-être un petit peu du sport en général, ou pas, qui fait les deux en même temps. Certains ne regardent que de l'e-sport. Et donc, ils les récupèrent d'un coup dans leur escarcelle. Et on voit l'importance qui est en train de prendre l'e-sport avec, on a vu deux annonces coup sur coup de grosses personnalités du monde du sport, et même une équipe américaine. On parle des États-Unis qui ont racheté des équipes d'e-sport. Donc il y a vraiment, ouais. On en parlait depuis quelques mois, même depuis un ou deux ans, on se disait, là ça y est, ça commence, l'e-sport prend beaucoup d'importance. Et on est passé d'un environnement où il y avait des commentateurs sportifs aux États-Unis qui disaient sur ESPN, qui est la grande chaîne de diffusion de sport là-bas, oui, e-sport sur ma chaîne, jamais de la vie, je préférerais démissionner avant que ça n'arrive, à une ambiance où maintenant c'est normal, et même c'est un truc que cherchent les équipes de sport pour récupérer ce public plus jeune, et en prévision d'une croissance importante dans les quelques années à venir. Donc on a vraiment cet aspect de l'e-sport qui est hyper important pour les médias et pour le sport et pour la tech en général, puisque c'est cette concurrence que fait Twitch à YouTube, qui même avec son YouTube Gaming n'a pas vraiment réussi à venir concurrencer pour la diffusion en direct. Entre parenthèses, là encore, c'est un aspect intéressant. Twitch propose désormais, grâce à Amazon, l'upload de vidéos pré-montées, donc de vidéos comme c'est le cas sur YouTube, alors que jusqu'à maintenant, c'était surtout, il y avait eu des petits allers-retours, mais c'était surtout de la diffusion en direct et pas de la diffusion pré-montée. Et bien aujourd'hui, la concurrence, on parlait de changement de paradigme avec les OS, les systèmes d'exploitation tout à l'heure, la concurrence de YouTube pourrait peut-être venir, non pas d'un autre diffuseur classique, mais peut-être de Twitch qui, pour le moment, le fait pour le jeu vidéo. Le plus gros secteur pour YouTube, hein, c'est les jeux vidéo qui représentent la plus grosse quantité, la plus grosse catégorie sur YouTube. Ouais. Et ben sur Twitch, ça pourrait aussi venir leur faire concurrence là-dessus.
Ouais. Après, je crois pas trop à un Twitch qui se lance sur autre chose que le jeu vidéo, parce que c'est ce que d'autres disent. Je sais qu'il y a des émissions qui font pas du jeu vidéo, mais Twitch n'aurait pas intérêt, en tout cas à ce moment T, de trop se diversifier. Leur spécialité, c'est le jeu vidéo, ils doivent y aller à fond, quoi.
On est d'accord. On sait pas, disons que là, il y aurait peut-être une perspective à, on va dire, 5 ans, mais même sans aller jusque-là, ils pourraient, par contre, ce qu'ils pourraient faire de manière réaliste, c'est venir concurrencer YouTube sur le secteur des vidéos de jeux vidéo.
Oui.
Et pas uniquement du direct.
Et sur ce marché,
ça serait beaucoup déjà.
Moi, je le dis en tant que YouTuber, je commence à regarder où est-ce que je vais mettre pas mettre tous ces œufs dans le même panier, quoi. Donc que ça soit Twitch, Facebook, que ça soit d'autres, pouvoir diffuser les vidéos sur d'autres plateformes, en fait, pour toucher un autre public.
Bon, eh ben écoutez, voilà pour nos infos à retenir d'aujourd'hui. On va continuer avec les news et rumeurs. Et une des news importantes, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le passage, le vote de la loi numérique qui avait été effectivement préparée par Axel Le Maire. Et il y a différentes différents aspects de cette loi qui sont intéressants. Alors moi, j'en ai retenu quelques-uns. Un petit merci à Estelle Pixiel, qui est sur le Reddit du Rendez-vous Tech, qui nous a mentionné celui qu'elle pensait le plus important. C'est le droit fondamental Internet, qui est devenu un droit fondamental en France. C'est-à-dire que on ne peut plus vous couper Internet. Alors évidemment, les fournisseurs d'accès ont râlé parce que ça va leur coûter de l'argent, ce que je peux comprendre. Mais c'est pas à moi qu'on fera dire qu'Internet n'est pas un droit fondamental au même titre. Alors, c'est au même titre que l'eau et l'électricité, hein, finalement. Donc, c'est comme ça que c'est vu. Oui. Internet, on peut pas le couper. Et effectivement, moi, je pense que si on dit on peut pas couper l'électricité, on peut pas couper l'eau, bah, Internet, c'est un petit peu dans la même catégorie où c'est pas essentiel pour vivre, mais c'est essentiel pour vivre en société, on va dire.
Donc, alors, Adopi, tout ça, là. On...
Ah oui, alors là.
C'est bien compliqué. Là.
C'est une bonne question. La neutralité du net a été également intégrée. Alors, c'est compliqué parce qu'au niveau français, il y a des petits bémols, genre le zéro rating, c'est-à-dire l'intégration de certains services et pas d'autres dans les contrats que vous avez avec les opérateurs mobiles. Bah, ça peut être accepté, mais pas au niveau européen, parce que la neutralité du net a été implémentée à un niveau de manière un petit peu plus forte au niveau européen. Donc, petite complications à ce niveau-là, mais en tout cas la neutralité du net, les principes essentiels sont intégrés. L'open data est également un principe qui est mis en avant. Donc l'open data pour les administrations qui va être implémenté aussi à l'avenir. Par contre, le logiciel libre, ça c'est un petit peu la mesure de polichinelle, on va dire. C'est pas le bon terme, mais peu importe. On encourage l'utilisation du logiciel libre. Et bon, ça veut un petit peu rien dire. Je sais qu'il y avait des défenseurs du logiciel libre qui auraient voulu que les administrations, par exemple, soient obligées d'utiliser des logiciels libres. Donc, ça n'a pas été le cas. Il y a les mesures sur l'e-sport dont on a déjà parlé. Il y a plein d'autres choses. Le fait de pouvoir télécharger ces données, le fait que les plateformes doivent être claires sur la manière dont elles les utilisent, le fait que les administrations doivent proposer des vidéos avec langage des signes, etc., etc. Donc, voilà. Il y a beaucoup de mesures là-dedans. Je suis sûr que c'est pas toutes les mesures que tout le monde aurait voulu. Évidemment, on peut peut-être pas tout mettre. Pour moi, il y en a quand même quelques-unes effectivement qui sont importantes. L'open data qui donne des opportunités importantes et le fait qu'Internet soit un droit fondamental. L'augmentation des pouvoirs de la CNIL qui peut être important pour protéger nos données. Enfin, il y en a plein d'autres. Quelles sont celles que vous retenez, vous?
Moi, c'est sur, celle que je trouve intéressante, c'est sur le droit à l'oubli pour les mineurs, en fait.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème, surtout en ce moment, avec les photos, etc. Et je trouve ça bien, même si le droit à l'oubli, c'est un peu, c'est à double tranchant, quoi. Il y a deux faces, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les politiciens qui s'en servent un peu pour pas que leur nom ressorte dès qu'ils font une couille, enfin, qu'ils font un truc. Et puis il y a les gens normaux, voilà, qui se retrouvent sur Internet et qui voudraient ne plus y être. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal. Là, que ça soit accessible aux mineurs.
C'est ça. Là, en fait, ce dont il s'agit, c'est que vous pouvez demander le retrait des photos ou des vidéos qui ont été mises en ligne si vous n'aviez pas 18 ans quand elles ont été mises en ligne. Donc, bon, ça peut être pratique si vos parents ont mis des photos embarrassantes de vous, ou même si vous avez fait l'imbécile. Voilà, vous aviez 15 ans et vous avez fait des bêtises quelque part. Et puis vous rendez compte à 21 que finalement c'est pas super qu'on tombe sur les photos de vous en train de danser nu sur le parvis de la Défense quand vous êtes en train de chercher un boulot, quoi.
Et donc, alors sinon voilà, après d'une manière générale, franchement, je pensais pas dire ça, mais je trouve que ça va, c'est correct, quoi. J'ai toujours peur quand il y a des lois qui passent sur le numérique, etc. Ça me stresse toujours un peu, et là ça va. Enfin, franchement, ça va. Ça a été bien fait. Il n'y a pas de trucs polémiques. Il n'y a pas de trucs qui vont entraver justement les libertés sur Internet, etc. Je trouve ça plutôt bien calibré. Donc, j'ai pas de critique en fait là-dessus.
Bah écoutez, si le chef de l'internet n'a pas de critique,
ça arrive pas souvent, hein, parce que putain, ils en font des conneries. Mais là, quand tu iras boire un petit thé chez Axel Le Maire, tu pourras la féliciter de ma part.
Très bien, je m'en souviens.
Pas mal, Axel, pas mal.
Jérôme, un petit mot sur
oui, moi, ce que je trouve intéressant, si je me mets à la place de quelqu'un dans le grand public qui entend parler de ça, c'est aussi la reconnaissance sociétale de l'acte numérique, enfin de la vie numérique, des choses comme effectivement la mort numérique qui est prise en considération. Qu'advient-il de nos données après notre décès? Des choses aussi comme le revenge porn, etc. Ce que je veux dire, c'est que le numérique n'est pas que dans les ordinateurs pour le grand public maintenant, c'est que ça fait partie de la vie de tous les jours et de nos droits sociétaux et des choses effectivement comme donner un petit peu plus de pouvoir à la CNIL. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Je trouve que la CNIL ne fait pas que des bonnes choses, mais globalement, je suis content d'être dans un pays qui a la CNIL. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est pas mal qu'on renforce un petit peu leur pouvoir. Voilà, protection de la vie privée et prise de considération de la vie numérique comme la vraie vie. Je trouve ça intéressant. Parce que dans le grand public, souvent, tout ce qui est numérique, c'est des trucs pour les geeks, c'est des trucs pour les ordinateurs. Ça n'influe pas sur notre vie de tous les jours. Or, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Voilà.
Bon bah écoutez, je pense que cette analyse au final mérite d'être dans les infos à retenir. Donc on a fait un cinquième sujet info à retenir. C'est très très bien. Pardon Corben, tu voulais dire
quoi? Ouais, je disais amen.
Ouais, très bien.
On a hacké l'émission de Patrick, on a rajouté un cinquième info à retenir.
Mais pour mon plus grand plaisir.
C'est ce qu'on dit quand on s'est fait hacker, mais
Oui, non, mais tu sais, moi, je suis, les hacks, les white hats, tu vois. Moi, je propose mes émissions, elles sont disponibles gratuitement, écoutables pour tous. Tu vois, je suis dans l'esprit. C'est cool, on est tous amis. Pardon?
Elles sont open data.
Ouais, presque. Presque. Bon, bah donc maintenant, vraiment les news et rumeurs. Facebook at Work serait lancé le 10 octobre avec un événement à Londres. Alors, Facebook at Work, c'était ce truc dont on entendait parler depuis un bon moment. Une version de Facebook qui serait orientée vers les sociétés. Et oui, c'est facile de se dire, oh là là, dans les boîtes, ça va devenir n'importe quoi. Parce que on a Facebook, on va avoir les photos des enfants de nos collègues. Mais c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a un gros souci avec les intranets, les moyens de communication interne dans les sociétés. Personne va sur l'intranet. Moi, je propose d'ailleurs, je fais un podcast interne pour une société, un auditeur qui m'avait contacté pour une grosse société. Et on fait un podcast interne qui est, à mon sens, un excellent moyen de communiquer en interne. C'est beaucoup mieux que les intranets sur lesquels personne ne va. Mais Facebook at Work, si c'est suffisamment différencié de votre Facebook personnel, par exemple, j'avais évoqué un moment l'idée de faire Facebook en rouge quand c'est Facebook at Work, comme ça vous êtes sûr que vous allez pas vous planter, hein. Il y a du rouge partout, vous savez que c'est la version boulot, et pas poster un truc pour votre Facebook personnel sur le Facebook du boulot. Mais pour moi, ça pourrait être un réseau social hyper intéressant pour le boulot aussi, quoi.
Ouais,
passe-moi le mot de passe, hop, je te le copie-colle dans la messagerie Facebook. Enfin, tu vois, moi, c'est plutôt par rapport aux données relatives aux entreprises que ça se retrouve sur Facebook.
Mais tu crois pas que ça s'envoie déjà par email, ces trucs?
Ah, par email, mais c'est l'email de la boîte, tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, tout ça, c'est de l'éducation, si tu veux, c'est les outils mis en place pour les employés, et puis l'éducation, on va dire, l'apprentissage pour les employés de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et là, que Facebook propose un outil, bah, tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, c'est un business pour eux, donc, why not? Mais qu'une entreprise, adopte ce truc-là et balance tous ces je vais pas dire ces secrets parce que c'est pas forcément des secrets qui vont être échangés là-dessus, mais c'est un peu comme, je sais pas, tu bosses dans le nucléaire ou tu bosses dans la sécurité ou je sais pas quoi et tu vas mettre tes documents confidentiels sur Google Docs. Donc tu vois, c'est
moi
toujours,
je dis il faut que tout le monde écoute le rendez-vous tech. Ça suffit les conneries maintenant. Tout le monde écoute le rendez-vous tech, tout le monde connaît les best practices, comment ça marche, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais je déconne à moitié, hein, je dis le rendez-vous tech, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais à un moment, il faut apprendre aussi comment ça marche. Le rendez-vous tech, c'est une heure et demie toutes les deux semaines. Je peux vous garantir que si vous forcez tous vos employés à écouter le rendez-vous tech, je plaisante vraiment à moitié, hein. ils ne feront plus ces conneries, ou en tout cas, s'ils le font, ils savent que c'est des conneries. C'est... Non, mais c'est vrai. Moi, c'est, non, je suis complètement vrai. D'accord avec toi, Corben. Complètement.
Ah, merci,
et
merci.
ça me fait un petit peu peur, ça aussi.
Non, mais là où je suis complètement également... d'accord avec toi, Patrick, c'est que les constructeurs, les logiciels, les OS ont fait des pas vers la simplification pour éviter le fossé numérique. N'oublions pas qu'il y a 10 ans, il y avait les informaticiens dans l'entreprise qui savaient utiliser l'informatique, et puis les gens qui faisaient de la bureautique ou d'autres boulots dans l'entreprise, qui étaient terrifiés parce qu'ils avaient l'impression que leur poubelle mangeait les documents pendant la nuit. Les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour rendre l'informatique plus facile à utiliser au bureau, moins informaticienne. Mais il y a un minimum quand même de démarches à faire de la part des employés, parce que c'est trop facile de dire « Oh, j'y connais rien, la technique, c'est les problèmes de service informatique. » Il y a un moment, des problèmes de sécurité de vos documents, de code d'accès, et ça fait partie de votre boulot, et on devrait...
De savoir, ouais, on est d'accord.
J'allais dire, on devrait virer les gens qui font des erreurs comme ça. Mais ouais, quelque part, aujourd'hui, merde, non, il faut marcher avec son temps, quoi.
Tout le monde fait des erreurs, effectivement, mais si tu je sais pas, t'as une voiture pour le boulot et tu passes les feux rouges et
rentres dans une autre voiture. Tu vas te faire engueuler par ta boîte.
Bah voilà, exactement.
Moi, j'ai été scandalisé par ma dernière expérience d'entreprise de voir que des gens et des jeunes, hein, des mecs de 25 ans, se réfugiaient derrière le « Oh, tu sais, moi, l'informatique, j'y comprends rien ».
Il y a des trucs qu'on comprend pas.
Ça leur justifiait le mot de passe sur le post-it jaune écran, voilà. Quoi.
Alors le problème, c'est qu'il y a des trucs qu'on va pas comprendre.
Ça m'énerve.
Mais il y a des trucs qu'on va pas comprendre, bien sûr. Personne va vous demander d'être spécialiste de IT. Effectivement, il y a des trucs qui font et qui sont là pour faire. Mais le fait d'envoyer des documents confidentiels ou des mots de passe avec sur le post-it ou des mots de passe par email, ce genre de trucs, non. À un moment, il y a certaines choses.
Ça fait partie de ton boulot. On t'apprend bien à fermer la porte de la boîte avec le code secret pour pas que l'alarme sonne pendant la nuit. Bah, tu dois avoir la même hygiène de sécurité dans ton boulot. Et pour moi, c'est inacceptable.
Donc, la solution simple.
C'est pas du tout dans le sujet, mais.
Non, mais écoute, la solution simple, je pense qu'on est tous d'accord. Faites écouter le rendez-vous tech à tous vos employés. c'est simple. Mais
et
tu sais vraiment.
Pas, vous les virez, quoi.
Vraiment, je dis ça. Et encore une fois, je le répète, je plaisante à moitié parce que il y a évidemment une partie fun, dans l'émission qu'on fait, dans le rendez-vous tech. Il y a une partie fun, il y a une partie boulot, il y a une partie aujourd'hui, je gagne ma vie comme ça. Mais il y a aussi une partie limite. Et encore une fois, je plaisante à moitié, limite service public. J'essaye de faire une émission qui soit sympa à écouter, qui résume tout ce qui est important et qui vous donne cette connaissance de l'industrie tech qui est tellement importante pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Quand on parle de politique, par exemple, mais pas que, on peut pas prendre des décisions sur l'économie, sur les médias, sans savoir comment fonctionne Internet. Et bah pareil, vous pouvez pas aller au boulot et utiliser un ordinateur sans savoir comment fonctionne la tech. Donc, bref, voilà. Avançons, ça m'énerve ce genre de truc, mais en même temps, j'ai de l'espoir. Mais bon, bref. Spotify pourrait racheter SoundCloud. Ça serait un investissement peut-être intrigant pour Spotify. Mais vous savez quoi? Je vais plutôt passer un petit peu de temps parce que je sais que Jérôme doit partir bientôt.
Non, mais te stresse pas, C'est moi le patron.
Ok, très bien. Uber, il y a en fait un programme pilote entre Uber et la société, et la ville de Summit dans le New Jersey aux États-Unis. En fait, la ville de Summit a de gros problèmes avec ses parkings parce que ils ont en fait une gare de laquelle les gens font leur aller-retour à New York en train. Et comme aux États-Unis, c'est un petit peu grand, eh bien, il y a de nombreux habitants de la ville qui vont jusqu'à la gare en voiture. Et ils ont besoin d'un parking plus grand. Le problème, c'est que les habitants qui font l'aller-retour vont souvent perdre 15 à 20 minutes à essayer de trouver une place dans le parking, et alors qu'ils payent un abonnement au parking. Mais c'est pas des places attribuées. Et donc, ça pose de gros problèmes. Ils ont besoin d'un parking en plus, qui est un truc qui va coûter énormément. Et qui pose des problèmes d'infrastructure, d'urbanisme, etc. Et donc ils se sont dit, on va faire un programme pilote où les gens vont payer le prix qu'ils paieraient pour leur place de parking, c'est-à-dire à peu près $2 par trajet, pour utiliser des voitures Uber à la place de d'utiliser leur propre voiture et de les laisser dans un parking. Et donc, c'est un programme pilote, hein, ça ne concerne qu'une centaine d'habitants pour le moment, mais ils disaient, les responsables disaient, eh ben même une centaine de places de parking en moins, ça change beaucoup de choses pour nous dans nos plans d'urbanisme, quoi. Et à terme, ils pourraient peut-être même le développer, et ils se disent, peut-être que ça pourrait encourager les gens, non pas à ne plus avoir du tout de voiture, mais à en avoir une au lieu de deux, parce que la deuxième voiture qui sert au papa ou à la maman dans la famille pour aller au boulot, et ben ils se diraient, bah celle-là on n'en a plus forcément besoin, on en a quand même une quand on veut sortir le week-end ou aller faire d'autres choses, mais pour aller au boulot, et ben on n'a plus besoin que d'une seule voiture, ou peut-être même plus besoin de voiture du tout, donc on n'a qu'une voiture dans ouais. notre foyer.
Sachant que dans les foyers américains, c'est pas parfois pas une ou deux voitures, c'est trois ou quatre. Hein.
Avec les enfants, bien sûr. Et donc, je trouve ça hyper intéressant parce que malgré tous les problèmes légitimes qu'on peut imputer à Uber, il est aussi intéressant de voir comment cette idée de partage, encore partage, pas on est des hippies, on va élever des chefs dans le Morbihan, mais le partage des ressources dans une optique vraiment de d'optimisation finalement est rendu possible par ce genre d'initiative. Et là, je me dis le fait que la ville travaille avec Uber ou d'autres services équivalents, ou même développe ces services eux-mêmes, hein, pourquoi pas, c'est pas spécialement Uber dans ce cas-là qui est important, mais développe peut-être même ces services eux-mêmes, peut améliorer énormément de choses dans notre environnement au quotidien, quoi. Donc je voulais en parler.
Ouais. Mais ça, c'est une tendance actuelle, hein, avec les autolib, le covoiturage. Enfin, c'est vers ça qu'on se dirige, et tant mieux. Hein.
Ouais, on est d'accord. Et là, alors peut-être que je mens un peu, peut-être que le fait qu'ils travaillent avec Uber m'interpelle plus, parce qu'il y a déjà une infrastructure existante, et au final, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un truc, de travailler avec, plutôt que de se battre contre, avec ces histoires de taxis et de machins. Encore, on en a énormément parlé, on va pas en parler, mais le fait qu'ils travaillent avec dans ce cadre-là me paraît beaucoup plus intelligent, et on perd moins de temps à se battre, à essayer de sauver des trucs qui sont d'un autre monde, même s'il faut les aménager, je suis d'accord, mais essayer d'interdire, ça n'a pas de sens. Donc ça m'a séduit, cette idée, quoi. Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça bien.
C'est pas mal.
La Commission européenne garantit qu'il n'y aura pas de frais d'itinérance entre les différents pays européens pour les téléphones mobiles à partir de juin 2017. Et il y avait des grosses questions sur la durée de ces... C'est-à-dire, moi, j'ai un abonnement en France. Eh ben, je vais au hasard en Finlande. Eh ben, je peux utiliser mon abonnement français avec les réseaux finlandais sans frais supplémentaires pour surfer sur Internet. Il y avait des grosses questions sur la durée de ces choses-là, et le problème, c'était la concurrence qui devenait déloyale entre différents opérateurs de différentes tailles en Europe, parce que si tout le monde peut aller prendre son abonnement avec des prix différents dans un autre pays qui n'a pas les mêmes contraintes que le pays où on vit.
Ouais, c'est tuer le marché.
Voilà. Donc, ce qu'il disait, c'était que cette itinérance ne pouvait être utilisée que, je crois que c'était 90 jours, au maximum, selon les anciennes règles, et ça posait des gros problèmes aux défenseurs de la suppression des frais. Eh bien, aujourd'hui, il a été décidé qu'il n'y aurait plus cette limite de 90 jours d'utilisation dans un autre pays d'Europe. Mais par contre, il faut pouvoir prouver qu'on est bien résident dans le pays d'où, enfin prouver. Il faut, disons qu'il faut une prouver raisonnablement qu'on est bien résident dans le pays en question. Donc on peut pas aller chercher dans n'importe quel pays. Il faut quand même qu'on utilise l'opérateur du pays, enfin un opérateur du pays où on est. Donc c'est un compromis qui semble intéressant, et surtout ça veut dire qu'effectivement on n'aura plus ces frais d'itinérance exorbitants sur Internet, et qu'on va pouvoir
même
utiliser
en Angleterre.
Internet. Alors, en Angleterre, pendant encore un an et demi, quoi, tu vois.
Ouais.
Parce que effectivement, c'est ça, hein, la sortie de l'UE. Des rumeurs sur le rachat de McLaren par Apple, qui ont été catégoriquement niées par McLaren. Voilà, je vous laisse tirer vos conclusions. On a évoqué l'outil Apple qu'Apple serait en train de développer pour concurrencer Alexa. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps. Tac tac tac, quoi d'autre? le mode portrait de l'iPhone 7 Plus, je sais que tu l'as testé, Jérôme, peut-être nous en dire un petit mot rapide, ce mode qui crée un bokeh artificiel, ce flou artificiel du meilleur effet.
Ouais. Alors, pour en avoir testé deux, parce que j'ai testé aussi celui du Honor 8, donc en fait, c'est un filtre qui existe depuis longtemps. Ce n'est pas du vrai bokeh. C'est un filtre logiciel, il faut être d'accord là-dessus. J'ai trouvé, pour l'instant, des tests que j'ai faits, que le système d'Apple marche un peu mieux, est un peu plus élégant, un peu moins à la truelle que ce que j'ai pu essayer sur le Honor 8. Mais faut pas s'attendre non plus à faire de la photo professionnelle à faible profondeur de champ. C'est un filtre, quoi. Après, je l'ai trouvé doué parce qu'il arrive à trouver des tout petits cheveux. Tu vois, il fait un joli détourage de
tout. Il est encore en bêta, entre parenthèses.
Ouais, mais il y a des trucs... Après, ils auront beaucoup de mal à le résoudre. Moi, je lui ai tendu un piège, par exemple. J'ai mis un verre transparent en premier plan, en lui disant « ça, c'est mon sujet ». Là, il se trompe, évidemment, puisqu'il ne voit pas la transparence. Enfin, il ne la comprend pas.
Je te trouve méchant avec lui quand même, parce que c'est un mode portrait. Normalement, il doit retrouver le visage pour pouvoir travailler. Tu vois,
non, mais Apple va te dire que c'est un mode portrait. Et effectivement, en termes de portrait, si la personne en face de vous n'est pas... n'a pas trop de... Comment dire ça? J'allais dire n'a pas trop de trous. mais tu vois, si moi, l'exemple que j'ai montré dans ma vidéo, c'est si les gens font un cœur avec les doigts devant le visage, ça va créer des... par rapport au fond, ça va créer des trous, tu vois, par rapport au fond.
Oui, oui.
Et là, il peut se tromper. Là, il peut se tromper. Donc... ça marche très très bien pour les portraits si la personne a plutôt les mains en bas et si elle n'est qu'une seule forme cohérente, tu vois. Si tu mets 5 personnes en train de faire une pyramide et tu lui demandes de faire un portrait, tu risques d'avoir des petits soucis.
D'accord.
Après,
sur 10, tu lui mets combien comme note à ce mode-là ?
Je lui mets 7. Avec un 8, parce que il va sensibiliser les gens à peut-être s'acheter du vrai matos photo quand ils vont, parce que ça rend clairement les photos plus jolies, les portraits plus jolis, et les gens comprennent grâce à ça l'importance d'avoir un fond qui part dans le flou pour mettre en valeur ton sujet. Donc je pense qu'il y a tout un aspect pédagogique derrière qui est vachement intéressant pour la photo.
Et c'est un truc qu'on peut faire qu'avec qu'avec iOS 10 ou c'est aussi
non que avec l'iPhone 7 Plus. Il faut avoir deux optiques parce qu'il va déterminer aussi ta forme par le petit écartement des deux optiques. Il va arriver à comprendre quelle est la profondeur du sujet devant toi.
Tu vois en stéréo.
Voilà, un peu.
On a eu des news qui m'ont un petit peu énervé sur le Galaxy Note 7 suite au changement de Galaxy Note 7, vous savez, le téléphone qui explose. Il y a eu des news un petit peu putaclic, qui est le terme consacré désormais, le clickbait, c'est le putaclic.
Sur quel média?
Il y en a eu différents. Il y a l'Informaticien qui a fait un article qui disait le nouveau Galaxy Note 7 aurait encore des problèmes, mais c'est pas le seul. L'Informaticien, c'est l'une des sources que j'utilise, donc c'est celui-là que j'ai noté. Mais c'est pas le seul. En fait, il y a un utilisateur chinois qui aurait été acheté après les changements, qui a dit que son téléphone avait explosé. Il a mis une photo, mais il a refusé de fournir le téléphone pour être examiné. Il n'a pas dit. Enfin, il y a plein d'informations qu'il a pas données. Bref, c'était vraiment un truc hyper douteux. À mon sens, c'était. Et il y avait ça. Il y avait genre quelques autres informations non vérifiées. Et il y a plusieurs médias qui ont dit voilà, le nouveau Galaxy Note 7 aurait avec ce truc, cette interrogation
toujours.
C'est comme
la photo de l'iPhone 7 qui aurait explosé, quoi.
Ah, je l'ai pas vu, celle-là.
Bah si, dimanche, il y avait une photo d'un iPhone 7 qui a explosé dans sa boîte. Moi, ce que j'ai dit à quelqu'un sur Twitter, c'est que tout appareil avec une batterie a, on va dire, 0,001% de chance d'exploser. Mais si cet appareil explose, il a 100% de chance de se retrouver sur un blog.
si tu le mets dans un micro-ondes, il a 100% de chance d'exploser.
Exactement. Il faut bien comprendre, et Corben ira dans mon sens, que
pour n'importe qui essaye de faire un petit peu d'argent sur Internet, la valeur, disons, allez, 900 euros pour un iPhone ou un Galaxy Note 7, tu l'exploses dans ton micro-ondes, l'article, s'il est bien diffusé, va te rapporter 10 fois le prix que tu as payé ton Note 7 ou ton truc. C'est pas pour être cynique, mais il faut comprendre qu'il y a tout un marché autour de casser des objets technologiques pour en faire des articles à sensation.
Là, c'est au-delà de ça. C'était sur la question de la news. Pour moi, il y a un moment, une certaine... Bon, on n'est pas en train de parler de la fin dans le monde ou de la guerre, mais une responsabilité, tu vois, du journaliste à pas faire la putaclic et à se dire, oui, bon, ne serait-ce que la manière dont tu tournes le titre, et je sais que c'est tourné comme ça parce que ça va attirer du clic, mais non, le fait de dire le nouveau Galaxy Note 7 aurait encore des problèmes, tu impliques qu'il a des problèmes. Si tu dis question, enfin je sais même pas comment le tourner, mais un utilisateur chinois prétend ou déclare avoir eu des problèmes, tu sais déjà que c'est un mec qui a fait un truc et tu...
Ou t'es écrit « salaud chinois qui pète des Samsung ».
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Non, mais je vois ce que je veux dire, ce que tu veux dire. Mais Patrick, finalement, enfin, t'as l'air surpris. D'abord, c'est une pratique.
Non, je suis pas surpris. Journal, je dénonce. Surtout, j'accuse, monsieur. J'accuse.
Oui, mais il faut y voir aussi une forme de. Faut pas oublier que les revenus publicitaires diminuent en flèche.
Non, bien sûr, mais sans refaire, Jérôme,
Non, mais c'est pas une excuse que je leur donne.
Mais sans refaire le débat sur la publicité. On sait non, tous.
Ce que je voulais juste dire, si les blogueurs ou les journalistes font des titres pareils et du putaclic, c'est parce qu'on clique dessus. Et donc, nous aussi, lecteurs, nous avons une responsabilité. De ne pas cliquer sur ce genre d'article.
Mais le problème, c'est que tu sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est tourné, si effectivement le nouveau Galaxy Note 7 revu après les explosions de batterie avait encore des problèmes, ça ferait une histoire importante au niveau de la tech. Tu vois, c'est un truc que moi je veux savoir. Donc forcément, je vais cliquer dessus. Mais c'est un type qui t'a mis une baffe. Si tu vois, c'est genre, regarde là, et puis il te met une claque et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ses sources, effectivement. Et d'accord. Là, l'informaticien, qui est une source que je respecte généralement, m'a un petit peu déçu. Voilà, je vais pas arrêter de le lire, hein, mais bon, bref, ça m'a frustré.
Ouh.
BlackBerry abandonne la fabrication des téléphones. Ça y est, c'est fini. BlackBerry ne fabrique plus de téléphones eux-mêmes. En l'occurrence, c'est des vignerons qui nous l'a signalé sur le Reddit. C'est un moment un petit peu amer et enfin. Ils vont quand même continuer à faire fabriquer des téléphones BlackBerry, mais eux, ils en fabriquent plus eux-mêmes, et c'est marrant parce que on parlait encore une fois de changement de paradigme. Ça va tellement vite. Il y a 10 ans, BlackBerry, c'était les rois du monde. Mais les rois du monde, c'était indétrônable. Aujourd'hui, enfin bon, c'est même il y a 5 ans, ils étaient déjà plus, mais c'est la chute a été très très rapide en quelques années, en 4-5 ans. Et aujourd'hui, elle est lente et elle continue, donc c'est pas nouveau, mais c'est quand même important de noter que BlackBerry, ils fabriquent même plus, ils peuvent plus se permettre de fabriquer des téléphones. C'est fou.
C'est ce qui s'appelle rater le coche.
Pour le moins, ouais. La RIAA, l'association de la musique, on va dire, aux États-Unis. La RIA.
Et pas la Rihanna.
Rihanna, ouais.
A mentionné le fait que le streaming a cru de 57% et représente aujourd'hui 1,7 milliard de dollars aux États-Unis uniquement dans la première moitié de 2016 et ça représente donc la moitié des ventes de musique dans le pays. C'est notable parce que il y a, un an encore même, il y a 2 ans clairement, mais il y a encore un an, l'industrie de la musique se plaignait du streaming en disant que ça ne représentait qu'une infime partie de la valeur de la musique. Et donc déjà là, de ce point de vue, c'est notable. Mais il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est un article de Bloomberg qui relate la chose. Et ils ont un graphique qui est mémorable, qu'on devrait montrer à tout le monde sur dans l'internet du monde entier, où il montre les revenus de l'industrie de la musique aux US chaque année depuis les années le début des années 70. Et en fait, on a une croissance constante jusqu'au début des années 2000, et au début des années 2000, ça commence à redescendre. Ce qui est pas très surprenant, hein, c'est l'arrivée d'internet, mais là où c'est magistral comme démonstration, c'est que on est aujourd'hui à un niveau qui est à peu près stable depuis 2009. Donc les revenus sont stables depuis 2009 et ils sont à peu près au niveau du début milieu des années 90. Et mais là où ça me pardon,
ils ont bien géré.
Eh ben non, mais là où ça me m'estomaque, c'est que quand on met ça en contraste avec les déclarations selon lesquelles la musique est en train de mourir de toute l'industrie de la musique, alors oui, il y a eu une chute claire dans les années 2000, hein, et on sait à quoi elle est due, mais j'ai pas l'impression que au début des années 90, la musique était moribonde. Enfin, on avait quand même, et même si on remonte plus loin, dans les années 80, dans les années 70, les artistes vivaient, ils étaient même très populaires et avaient beaucoup de succès. Dans les années 90, c'était le cas aussi. Donc, il faut toujours regarder les choses avec cette perspective. Et là, le fait qu'on soit stable depuis 2010 avec ce niveau des années, allez, on va dire 92, 91, 92, 93. Voilà. Moi, au début des années 90, j'écoutais beaucoup de musique et j'ai pas l'impression que la musique était en train de mourir.
Mais Patrick, on reboucle sur les aberrations du capitalisme. Comme tu dis, les entreprises doivent être en perpétuelle croissance. Donc, pour un investisseur, un industriel et tout ça, il peut pas raisonner comme ça. Parce que lui, de 90 à 2000, il a continué à croître. Donc, même si aujourd'hui il revient au niveau de 90, il n'est plus dans la croissance. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Non, moi je suis pas d'accord.
C'est là qu'il y a les limites du capitalisme. Non, mais
moi j'étais d'accord avec toi quand on parlait de société. Je suis tout à fait d'accord. Là, le discours était beaucoup plus pernicieux. On parlait pas d'une société qui allait croître.
Je suis en train de dire que ça va pas que ça aille comme ça. Hein.
Non, mais moi ce que je veux signaler, c'est l'implication, le mensonge intellectuel qui était de dire les artistes vont mourir. C'est ce point spécifique sur lequel je m'attarde.
Dire
aujourd'hui les artistes ne font plus d'argent, ils sont en train de mourir.
Enfin, je veux dire, faut arrêter.
Qu'est-ce que tu dis, pardon?
Tous les jours, il y a des artistes qui meurent. Regarde David Bowie, regarde Prince. Faut arrêter quand même.
En plus, on s'engueule, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est un des problèmes du capitalisme qui nous ment justement en disant tel secteur va mal parce qu'il n'est plus en croissance depuis 10 ans.
Mais c'était pas ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était pas ça. C'était l'industrie de la musique qui essayait de te tirer l'alarme. C'est à côté de toutes les questions de capitalisme. C'est l'industrie de la musique qui essayait de te tirer ta larme en disant oh regardez ces pauvres artistes qui n'ont plus de quoi manger.
Alors que
ils étaient un niveau de taille d'industrie qui était complètement raisonnable. Bon, bref.
Mais c'est ce que je dis justement.
Ouais, moi c'est pas ce que j'ai entendu.
L'excès du capitalisme nous dit qu'une boîte n'a pas de taille raisonnable et que justement ils t'ont dit les artistes meurent en disant on perd de l'argent par rapport à notre croissance des 10 ans.
C'est pas ça qu'ils disaient.
Écoute, c'est la fin de ma phrase.
Bon, avançons avec Netflix, dont David Wells, qui est le CFO, a annoncé qu'il voulait atteindre un niveau de 50% de contenu produit par Netflix, de contenu original, dans quelques années, de leur catalogue. Donc 50% de leur catalogue serait composé de productions originales, ce qui est, et ils sont à peu près à un tiers à la moitié de ce but de 50%, donc ils sont en train d'avancer. Alors évidemment, toutes les productions ne seront pas de la qualité des meilleures séries Netflix. Hein. Il n'y a pas que des trucs incroyables. Il pourra aussi y avoir des trucs moyens, mais c'est effectivement une direction intéressante à un moment où tout le monde est en train de se tourner enfin vers le net et où il y a des sociétés qui donnaient leur contenu à Netflix. Il y a une histoire là, depuis hier, le contenu de Disney n'est plus disponible sur Netflix. Ouais. Ouais. Donc c'est bien, ils ont hyper bien tenu leur virage. Et quand on parle de prévoir l'avenir et de savoir prendre les bons virages, Netflix, ils étaient à l'origine, ils diffusaient le contenu d'autres sociétés et ils ont pris très tôt le virage de « on va produire notre propre contenu » il y a plusieurs années déjà. Et aujourd'hui, ils sont dans une position où ils peuvent se permettre de ne plus avoir, bah voilà, il y a plus le contenu de Disney, il y a plus le contenu d'un tel et d'un tel. Bah c'est pas grave parce qu'on va regarder Luke Cage, on va regarder machin. Entre parenthèses, il y a eu une explosion des serveurs de Netflix samedi soir, sans doute dû à la sortie de la série Luke Cage, que tout le monde regardait en même temps. Et pendant une heure, Netflix n'était pas disponible. Enfin, on n'arrivait plus à streamer sur certaines plateformes. Et donc, effectivement, ils ont une popularité absolument folle. Mais c'est vraiment un exemple à suivre, quoi, le fait d'anticiper les changements et de ne pas se reposer sur ses lauriers, parce qu'ils auraient pu, hein, Netflix, mais bon, et voilà, et donc ils continuent, et on se dit, bah, s'il y a 50% de production originale, bah oui, on va prendre Netflix, et puis voilà, on sera content, même s'il n'y a pas les autres séries qu'on voulait, quoi.
Ouais.
Vous êtes client de Netflix, vous ?
Ah ouais, moi je suis clair aussi, et je trouve que c'est bien joué pour eux, parce qu'effectivement, on a, comme on l'avait dit, n'importe qui peut se retirer, donc ils peuvent se retrouver assez rapidement sans contenu. Et en plus, bah, du contenu Netflix, c'est du contenu que tu retrouves pas ailleurs, sauf sur les marchés légaux, genre BitTorrent et compagnie. Mais donc du coup, ça incite aussi à s'abonner, en fait, hein, parce que c'est du contenu que tu vois pas ailleurs. Donc pour moi, c'est bien joué. Ouais.
Bah, de toute façon, il en va de leur survie, hein, à long terme, parce que ça va devenir de plus en plus dur pour eux de négocier des droits sur... Parce que tous les médias aujourd'hui veulent leur Netflix. Donc, les barrières sont en train de se remettre, en fait, sur les contenus. Donc, plus ils produiront du contenu à eux, plus ils seront libres, hein, Netflix.
C'est clair. C'est ça. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Quel bonheur, quelle joie, quel moment agréable passé ensemble. Malheureusement, il touche à sa fin, mais si vous en voulez plus, vous pourrez aller retrouver Jérôme sur
Nowtech TV, sur YouTube, la chaîne Nowtech TV. Voilà, retrouvez mes tests, nos émissions aussi tous les matins, TechScope. Vous trouverez toutes les informations sur Nowtech TV.
Et comme je le disais sur Twitter, cette vidéo des premières impressions sur l'iPhone 7 est un véritable plaisir à regarder. Franchement, j'ai été émerveillé. C'est une qualité de production qu'on retrouve, je crois que t'es arrivé à un niveau de qualité qu'on retrouve vraiment à peu près nulle part ailleurs.
Mais je suis comme une entreprise, je suis pas arrivé à un niveau, là j'ai encore tout à apprendre. Non, mais moi j'y vois que des imperfections parce que
c'est vrai. C'est bien que tu m'écoutes parce que c'est
il y a beaucoup
c'est
de vraiment... travail donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de travail derrière ces vidéos donc ça fait plaisir voilà. D'avoir la reconnaissance de ses pairs. Et oui, vous êtes mes pairs.
Oh Corben, où peut-on te retrouver?
Bah écoute, sur le blog corben.info et puis sur Twitter Corben et Snapchat Corben00.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver donc cette émission et venir la commenter sur frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi le rendez-vous jeu, par exemple, hein, si vous voulez suivre l'actualité du jeu vidéo d'une manière tout aussi agréable et résumée et facile à appréhender. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. L'adresse est dans toutes les notes de l'émission. Et vous savez que cette émission n'est pas produite grâce à la pub, n'est pas produite grâce au contenu d'autres sociétés. C'est vraiment une émission qui est rendue possible grâce à son audience. Si vous appréciez l'émission, bah, je vous encourage vraiment à considérer l'idée de nous soutenir. Vous pouvez aussi, par exemple, dire à vos amis d'écouter l'émission, hein, c'est aussi une possibilité pour nous soutenir, en parler autour de vous ou dire qu'il est important, comme je faisais mon petit moment de comment dis-je, je me plaignais tout à l'heure du fait qu'il faut que les gens sachent comment fonctionne la tech, et j'y crois vraiment, mais le problème c'est que si on sait pas comment, et ben comment se renseigner, ben c'est pas facile. Mais le rendez-vous tech est vraiment un moyen simple, donc si vous avez des amis qui bénéficieraient qui pourraient bénéficier de l'écoute du rendez-vous tech, ben encouragez-les à écouter des podcasts et à écouter le rendez-vous tech. Et puis bah comme je le disais, si vous voulez soutenir l'émission, si vous pensez qu'elle a une valeur pour vous, et si vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de pub et que on n'ait pas besoin de sociétés, d'avoir des relations avec des sociétés externes. Ça a une valeur pour vous si on peut rester indépendant. Patreon.com/RDVTech, devenez patriote et vous aurez en plus accès à tout plein de petits bonus sympathiques pour vous remercier de financer cette émission qui reste gratuite et disponible à absolument tout le monde.
Mais c'est bourré de placements produits, Patrick. tous les produits. Tu sais qu'il y a quelqu'un quand même sur YouTube, je veux raconter l'anecdote parce que ça m'a fait mourir de rire. Il me dit, non mais ta vidéo, il y a bien un placement produit puisque tu parles d'un produit. Ouais mec, je fais des tests produits. Ça s'appelle pas du placement produit, quoi. Il y a un moment, ça devient complètement absurde, quoi.
Il y a beaucoup qui ont le problème.
Le problème, c'est qu'il y a eu ce flou dont on a souvent parlé chez les YouTubers qui n'annonçaient pas leur placement produit. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que t'as mis une petite, un petit.
Moi, je fais une opération transparence qui t'a être un peu ridicule, mais je fais une opération. Je dis exactement ce qu'il y a dans mes vidéos. Voilà.
Très bien, c'est parfait. Voilà. Bon, et voilà. Si vous appréciez donc cette transparence, cette indépendance, patreon.com/rdvtech et vous pouvez aussi aller sur corben.info et nowtech.tv pour soutenir des gens qui font du contenu de qualité. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et de toujours nous soutenir. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Bye bye. Salut tout le monde.
Je vais vous jouer un petit morceau. Attention. 3, 2, 1, c'est parti.
Au corbeau, il mange du cochonou sur mes genoux. La la la.
Ah, vous êtes magnifique.
Corbeau, reviens-nous avec de la terre sur les genoux.
Et voilà.
Magnifique. Bravo.